RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'heure suivante, comme d'habitude, vous allez écouter magazine culturel qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La ministre indonésienne des Affaires étrangères et du Congo organise des réunions bilatérales. Le programme de technologie financière de Bali se tiendra en marge de la réunion annuelle 2018 du FMI et de la Banque mondiale. Le ministère indonésien des Affaires étrangères et CICR discutent des nouveaux défis à la paix dans le monde. Le vice-président indonésien a reçu la visite du vice-premier ministre du Congo. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Milenial, le prochain moteur économique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec le vice-premier ministre, étant également ministre des Affaires étrangères de la République diplomatique du Congo, Si Okintudu Lundula, à Jakarta jeudi. C'était la première visite de hauts fonctionnaires de la République démocratique du Congo à l'Indonésie depuis les deux pays ont établi officiellement des relations diplomatiques en 1963. Dans un communiqué de presse, Mme Retno Marsudi a déclaré qu'elle a discuté avec Lundula de la coopération dans les infrastructures, l'exploitation minière, l'aquaculture et la plantation de palmiers à huile. Lundula a également exprimé le souhait d'établir la coopération dans le domaine du textile entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo.
Dalam pembicaraan tadi, beberapa kerjasama kita bahas, misalnya di bidang infrastruktur.
Dans les discussions, nous avons discuté une coopération dans les domaines tels que les infrastructures, dans le domaine de l'exploitation minière, de l'aquaculture et dans le domaine de la plantation de palmiers. Le ministre des Affaires étrangères a également exprimé le souhait de voir la coopération dans le domaine des textiles. Je suis heureux que lors de cette visite, le ministre des Affaires étrangères, M. Lundula, tiendra également une réunion avec la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne et plusieurs entreprises publiques ou BUMN indonésiens. Lors de cette réunion bilatérale, Mme Retno Marsudi et Lundula ont également signé un protocole d'accord de la commission mixte bilatérale pour renforcer les relations bilatérales et élargir les perspectives de coopération potentielle dans d'autres domaines. Les deux ministres des Affaires étrangères se sont également engagés à poursuivre une coopération plus concrète suite à la participation des deux pays au dialogue sur l'infrastructure Afrique-Indonésie 2019. La République démocratique du Congo est l'une des priorités de la politique étrangère indonésienne sur le continent africain après le Forum Indonésie-Afrique 2018, il y a quelque temps à Bali. Le développement rapide de la technologie basée sur la technologie se produit non seulement en Indonésie mais aussi dans le monde. Cela a attiré plus d'attention aux dirigeants des institutions et autorités financières mondiales. Par conséquent, il y aura un programme de technologie financière de Bali qui coïncidera avec la mise en œuvre de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en 2018 qui se tiendra en octobre 2018 à Nusa Dua, Bali. Peter Jacob, le chef de l'unité spéciale de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale, lors d'une conférence de presse mercredi à Jakarta, a déclaré que le président indonésien Joko Widodo, le dirigeant du FMI, de la Banque mondiale et de la Commission de règlement international de la Banque mondiale, Madame Sri Mulyani, et plusieurs autres fonctionnaires assisteront à la réunion. En outre, le président Jokowi donnera son discours.
Agenda. Nah, Bali Fintech Agenda adalah event yang secara khusus didesain sebagai permintaan Indonesia.
L'agenda des technologies financières de Bali est un événement conçu spécifiquement comme une demande indonésienne. Ainsi, le président Jokowi l'ouvrira. Ensuite, il y aura des conférenciers tels que le directeur général de la GAR, le président Kim, le président de plusieurs institutions financières, y compris Madame Sri Mulyani, comme président de la Commission du développement. Sri Mulyani participera au séminaire phare intitulé « Le programme de la technologie financière de Bali ». Il prévoit que les initiatives désignées par le monde entier soient les principes de la technologie financière. Peter a également déclaré que le gouvernement indonésien espérait que le programme de technologie financière de Bali ferait partie de l'initiative de communiquer de Bali. À la même occasion, le chef du département international de la Banque d'Indonésie, M. Dodi Zulferdi, a souligné que le soutien de la Banque centrale au développement économique numérique peut donner beaucoup d'impact positif. Cependant, si le changement n'est pas soutenu par les infrastructures, la loi, etc., que cela aura un effet négatif sur l'économie nationale. Le Centre d'études et de développement multilatéral, ou P2K, l'Agence pour l'évaluation et l'élaboration des politiques, ou CICR, du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rousse, ou CICR, a organisé la conférence régionale sur la guerre contemporaine, globale, tendance et défis humanitaires, le mercredi 5 septembre à Jakarta. La conférence a été assistée par des représentants de diverses organisations internationales, entre autres l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou l'OTAN, et des centres d'études, et aussi les établissements universitaires régionaux. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que le but de convoquer la conférence pour trouver une solution aux nouveaux défis dans la réalisation de la paix mondiale. Le nouveau défi provient des développements technologiques, à savoir la cyberguerre. Ce type de guerre exige des attitudes et des efforts de manipulation spéciale qui est différent de la guerre conventionnelle.
Sekarang kita tahu bahwa ada tantangan baru, ada jenis-jenis perang yang berbeda yang sudah menggunakan.
Maintenant nous savons qu'il y a de nouveaux défis, il y a différents types de guerre qui ont utilisé plus de technologies. Cela nécessite une attitude parce que j'ai dit quel que soit le type de conflit, quel que soit le type de guerre, mais qui seront les victimes sont encore des humains. Et les humains seront toujours l'attention principale du CICR et aussi pour la politique étrangère indonésienne. Par conséquent, nous collaborons avec CICR pour organiser cette conférence régionale qui discutera des nouveaux défis. À la même occasion, l'autre fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, M. Siswa Pramono, a déclaré que cette discussion était celle avec une large portée. Par conséquent, tous les participants devraient être en mesure de fournir des informations aux organismes compétents pour les utiliser ultérieurement dans la formulation de politiques liées à l'utilisation de la technologie à des fins militaires ou de guerre. Selon Siswa, il y a des avancées technologiques dans chaque guerre, de sorte que la discussion vise à minimiser les dommages causés par une technologie de plus en plus sophistiquée. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a reçu jeudi la visite du vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, Leonard Si Okintudu Lundula, au bureau du vice-président Jakarta pour discuter des projets visant à renforcer les relations entre les deux pays. Yusuf Kalla a déclaré que c'était très historique car il s'agit de la première visite d'un haut responsable congolais en Indonésie, bien que les relations diplomatiques avaient duré plus de 56 ans. La visite du vice-premier ministre Lundula en Indonésie et l'invitation de la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Lors de la rencontre avec le vice-président Yusuf Kalla, le vice-premier ministre Lundula a déclaré qu'il a l'intention d'ouvrir une coopération avec l'Indonésie. Lundula se rend compte que la coopération était assez tardive pour être mise en œuvre, mais il va explorer la coopération pour les deux pays. La coopération entre le gouvernement indonésien et congolais comprend les domaines de l'économie, de l'environnement et de la diplomatie. La signature de la coopération a été réalisée par les deux ministres des Affaires étrangères. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la génération millénaire en Indonésie avait un rôle stratégique à surmonter divers problèmes dans ce pays, y compris l'économie. Pour ce rôle, elle a demandé à toutes les parties prenantes de les encourager conjointement à devenir le prochain moteur. Lors de l'ouverture de l'événement du 4e sommet de l'ASEAN à Jakarta jeudi, Mme Retno Marsudi a indiqué que le nombre de générations millénaires en Indonésie avait atteint 34,45%. Dans l'ASEAN, qui possède plus de 600 millions d'habitants, 40% d'entre eux ont moins de 30 ans. En plus de dominer en quantité, ils sont également potentiels en termes de qualité. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Troisième sommet Afrique-Chine à Pékin, le moment important au milieu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ». Les dirigeants des pays africains et chinois se sont à nouveau réunis pour discuter à l'avenir de la coopération entre les pays de différents continents. La réunion et la discussion ont lieu au sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui a eu lieu depuis lundi. L'objectif du sommet est reflété dans le thème « Vers une communauté future plus forte ensemble via une coopération mutuellement bénéfique ». Le président chinois Xi Jinping, lors de la cérémonie d'ouverture, a présenté un discours très persuasif. Dans son discours, le président Xi Jinping a souligné le principe de son pays de coopérer avec d'autres pays, entre autres, n'intervient pas dans d'autres pays partenaires et n'applique pas aucune condition politique. Un thème similaire a également été annoncé lorsque l'Afrique et la Chine ont commencé le sommet à Pékin en 2006 et ont été suivis le deuxième sommet 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud. La Chine, comme l'a révélé le président Xi Jinping, menera 8 actions majeures pour aider les pays africains pendant les 3 prochaines années. L'une des 8 actions consiste à encourager l'expansion des importations de produits de base africains et à soutenir la réalisation de l'objectif de sécurité alimentaire en Afrique en 2030. Pour les pays africains, la coopération avec la Chine est bien acceptée. Peut-être, à leur avis, la Chine est la principale alternative pour soutenir l'amélioration de leur économie. Ils peuvent bien voir que la Chine est la principale alternative pour soutenir leurs améliorations économiques. En tant que l'un des pays les plus forts dans le monde, l'opportunité de coopérer avec la Chine donne un nouvel espoir pour l'Afrique en tant qu'alternative outre l'Europe et les États-Unis. Pour la plupart des pays africains, l'amélioration des relations avec la Chine aurait pu donner un nouvel espoir. Parce que contrairement à l'Europe, la Chine n'était pas un pays qui avait colonisé le continent africain. Pour la Chine, l'accroissement et l'élargissement de la coopération dans le secteur économique et commercial sont devenus des facteurs importants pour trouver l'équilibre de la coopération multilatérale. La guerre commerciale lancée par les États-Unis, intensifiée par le gouvernement de Donald Trump, a eu un impact économique dans le pays le plus peuplé en Asie. Dans cette perspective, le 3 sommet sino-africain à Pékin est un nouvel élan, notamment pour la Chine qui cherche un nouvel équilibre dans le domaine économique à l'échelle nationale et mondiale. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 7 septembre. Le 7 septembre 1901, la rébellion Boxer. La rébellion Boxer était une rébellion en Chine de novembre 1899 au 7 septembre 1901. Contre les puissances étrangères dans les secteurs commercial, politique, religieux et technologique. Boxer a commencé son action en tant que mouvement anti-étranger et anti-impérialiste et était un mouvement paysan en Chine du Nord. Ils ont attaqué des étrangers qui ont construit des lignes de chemin de fer et violé le feng shui ainsi que des chrétiens sont considérés comme responsables de la domination étrangère en Chine. En juin 1900, Boxer a attaqué Pékin et a tué 230 personnes non chinoises. De nombreux chrétiens chinois et catholiques ont été tués dans les provinces Shandong et Shaanxi dans le cadre de la rébellion. Le protocole Boxer du 7 septembre 1901 a mis fin à la rébellion et imposé des sanctions sévères à la dynastie Qing, notamment une indemnité de 450 millions de taels d'argent. L'existence de ce protocole a grandement influencé les conditions politiques, économiques et sociales du gouvernement et de la population chinoise à cette époque. On ne faisait plus confiance au gouvernement et les impôts se sont fortement accrus, ce qui a entraîné un affaiblissement de la dynastie de Qing et une chute par la révolution en 1911. Le 7 septembre 1940, Abdurrahman Wahid est né. Abdurrahman Wahid, communément appelé Gus Dur, est né à Jombang, Java de l'Est, le 7 septembre 1940. Il était un musulman et un dirigeant politique indonésien qui est devenu le quatrième président indonésien de 1999 à 2001. Il a remplacé le président B.J. Habibi après avoir été élu par l'Assemblée consultative du peuple à la suite des élections de 1999. La mise en œuvre de son administration était assistée par le cabinet d'unité nationale. La présidence d'Abdourahmane Wahid a débuté le 20 octobre 1999 et s'est achevée lors de la séance spéciale du MPR en 2001. Le 23 juillet 2001, sa direction a été remplacée par Megawati Sukarnoputri après que son mandat ait été révoqué par le MPR. Abdourahmane Wahid est l'ancien président de Tanfizia, ou organisation exécutive de Nahdlatul Ulama, et fondateur du Parti du Réveil National. Le 7 septembre 2004, Munir, un défenseur des droits de l'homme de l'Indonésie, est décédé suite d'un empoisonnement à l'arsenic sur un vol Garuda Indonesia à la route Jakarta-Amsterdam. Munir Said Talib Al-Khatiri est né à Malang, Java de l'Est, le 8 décembre 1964. Il est décédé à Jakarta le 7 septembre 2004 à l'âge de 39 ans. Son dernier poste était directeur exécutif de Indonesian Human Rights Watch Agency, Impartial. En tant que membre du conseil de Contras, son nom est devenu un combattant pour plusieurs militants disparus à cette époque. Le cœur de Munir a été enterré dans le cimetière public à la ville de Batu. L'épouse de Munir, Suciwati, ainsi que d'autres militants des droits de l'homme ont continué d'exiger que le gouvernement divulgue cette affaire de meurtre. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteur, voici donc mon Indonésie et pour le titre, la baisse de la valeur de rupiah due à des facteurs externes. Le taux de change de rupiah contre le dollar américain a continué de baisser, touchant presque 15 000 rupiah par dollar américain. Le président Joko Widodo, en marge de l'inauguration de l'exportation d'un million d'unités de produits Toyota au port de Tanjung Priok dans le nord de Jakarta, mercredi, a déclaré que l'affaiblissement du taux de change de rupiah était indissociable de facteurs. À partir de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, la guerre commerciale des États-Unis et la Chine et la crise économique qui a eu lieu en Turquie et en Argentine. Selon le président Joko Widodo, l'affaiblissement de cette monnaie ne se produit pas seulement en Indonésie, mais également dans divers autres pays.
Kita semuanya ya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena apa.
Nous savons tous que non seulement notre pays, l'Indonésie, qui est affecté par la dépréciation du taux de change, pas seulement l'Indonésie. Il s'agit d'un bon facteur externe lié aux hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, lié aux guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, lié à la crise en Turquie et en Argentine. Je pense que la chose la plus importante est que nous devons être vigilants, nous devons faire attention. Je continue à coordonner dans le secteur fiscal, monétaire, industriel, les hommes d'affaires. Je pense que cette coordination forte est la clé pour que le chemin soit en ligne. Et la clé est double dans les investissements qui doivent augmenter et les exportations doivent également augmenter. Nous pouvons donc résoudre le déficit du compte courant. Par conséquent, selon le président Joko Widodo, le gouvernement doit être vigilant et prudent quant à l'impact économique des autres pays. En outre, il a également déclaré que le gouvernement continuerait à se coordonner dans le secteur fiscal, monétaire, industriel et commercial. Il a indiqué que la principale solution était de surmonter les conditions économiques actuelles à savoir accroître les investissements, le volume des exportations et réduire les importations. Pour réduire les importations, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a publié un règlement de la ministre des Finances au PMK concernant l'augmentation de l'impôt sur le revenu au PPH, l'article 22 lié aux importations. Cet effort vise à renforcer le déficit de la balance des paiements, qui est l'une des causes de la chute du taux d'échange de roupia par rapport au dollar américain. Sri Mulyani a annoncé mercredi à Jakarta le nouveau règlement accompagné par le ministre de l'Économie Darmin Nasution, le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto et le ministre du Commerce Enggar Tias Tolukita. Cerita Ksatema Indonésie pour ce soir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter le gâteau de pulut hijau en provenance de Banda Aceh. Biren est l'un des régions de la province d'Aceh. La distance est 223 km du centre-ville de Banda Aceh, la capitale de la province d'Aceh. Le quartier est surnommé la ville de Lut. Ce surnom a été donné parce que pendant l'ère de la guerre, Biren était le centre de la lutte face à chaque attaque en Weiser. Cette région est connue comme la ville de lutte et sa beauté naturelle. Biren sauve la richesse touristique que vous pouvez apprécier, telle que la cascade de Samalanga, la plage de Jangka, le bain de Bati Ilek, la plage de Ujung Blanc, et la place de Kuala Raja. Dans la ville de Biren, vous pouvez également profiter d'une variété de cuisine unique. L'un d'entre eux est le gâteau pulut hijau. Pulut hijau est un gâteau sucré typique d'Aceh. Il est fait de riz gluant, de lait de coco, de sucre, et de feuilles de pandanus qui produisent une couleur verte. Le processus de fabrication de ce gâteau est très simple et facile. Au début, tous les ingrédients sont mélangés et ensuite enveloppés dans une feuille de bananier et ensuite grillés par le charbon de bois. Une fois cuit, l'arôme parfumé de feuilles de pandanus sentirait clairement. Par conséquent, beaucoup de vendeurs de pulut hijau mettent le feu devant le magasin de sorte que l'arôme de pulut hijau attire les acheteurs. On peut manger directement ce gâteau après être brûlé et peut être consommé avec le durian, l'eau de canne à sucre, le café, etc. Le prix est également relativement bon marché, environ 1000 rupiah par pièce. On peut acheter ce gâteau à Chot Bate Gelengku. Chot Bate Gelengku est situé sur la côte de la route croisée Medan Aceh. Pour ceux d'entre vous qui vont à Aceh de Medan en utilisant le transport terrestre, vous pouvez vous arrêter à Chot Bate Gelengku. Et ici, on peut également acheter divers aliments et boissons typiques d'Aceh comme mie kocok ou rujak Aceh. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et au revoir.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying. Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, je vous présente un sujet intitulé Momo, une mascotte des Jeux Paralympiques Asiatiques 2018. Alors, restez à l'écoute de nous sur www.voinews.id. Chers auditeurs, après avoir organisé avec succès les Jeux Asiatiques 2018, l'Indonésie se prépare à organiser les Jeux Paralympiques Asiatiques à Jakarta du 6 au 13 octobre. Tout comme les Jeux Asiatiques 2018, les Jeux Paralympiques Asiatiques 2018 ont leur propre mascotte. La communauté asiatique a pris connaissance des trois mascottes des Jeux Asiatiques de 2018, à savoir Bin Bin, l'oiseau du paradis, Atou, le chef du Bavien, et Kaka, le rhinocéros à Incon. Ces trois mascottes ont volé avec succès le cœur des gens et des invités des Jeux Asiatiques afin que leur bibelot soit bien vendu. Aux Jeux Paralympiques Asiatiques, il n'y a qu'une seule mascotte, à savoir Momo. Momo est un chef volant brahman ou pigargue à tête blanche. Le nom de Momo lui-même est synonyme de motivation et de mobilité, qui signifie que les gens doivent continuer à progresser et s'adapter facilement à l'époque. Pigargue à tête blanche est choisi parce que c'était la mascotte de Jakarta où les Jeux Paralympiques Asiatiques 2008 ont lieu. L'aigle à tête blanche est connu comme des oiseaux forts et courageux. Ce qui est unique et intéressant de Momo, parce que les Jeux Paralympiques Asiatiques se déroulent à Jakarta, c'est pourquoi il porte une ceinture de vêtements traditionnels de Jakarta. Quelqu'un qui utilise cette ceinture est considéré comme un héros dans la société. Le plan des Jeux Paralympiques Asiatiques 2008 est ouvert le 6 octobre 2008 au stade principal Gelora Bung Karno à Jakarta par le président Joko Widodo. Le président du comité d'organisation des Jeux Paralympiques Asiatiques en Indonésie 2008, Inapgok Raja Sabta Oktohari, a déclaré que l'ouverture des Jeux Paralympiques d'Asie 2008 sera si très animée que celle des Jeux Asiatiques 2018. Les Jeux Paralympiques Asiatiques 2018 organiseront 18 branches de sport, à savoir le tir à l'arc, la course, le badminton, le ballon debout, les échecs, le cyclisme, le judo, le tir, la natation, le tennis de table, l'escrime, le volleyball et le basketball. Les Jeux Paralympiques Asiatiques 2008 seront suivis par 41 pays des Jeux Paralympiques nationaux avec un total de 2800 athlètes, 1800 officiels et couverts par 500 médias au pays et à l'étranger. Secrétaire, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le sujet Momo, la mascotte des Jeux Paralympiques d'Asie 2018. Nous nous retrouverons demain avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons traditionnelles de la province de la Sulawesi du Sud. La première chanson que nous allons écouter s'intitule Indolongo, chantée par Engel Farr. Cette chanson de Bugis raconte de quelqu'un qui a manqué son amant, et le désir et les souvenirs de l'amant sont aussi grands et élevés qu'une montagne. Restez avec nous à www.voinews.id, à 3200 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable.
Oh,
la chanson de Engelfarb dont le titre est Indolongo. Ensuite, je vais vous présenter la chanson d'Emilia Suratman dont le titre est Ati Raja. La chanson Ati Raja est une chanson populaire de la région de Sulawesi du Sud diffusée par un musicien chinois s'appelle Oengji. Cette chanson contient des messages religieux et ses paroles continuent de mentionner que Dieu est le seul endroit où nous pouvons demander et plaider. De plus, bien que les humains aient des désirs variés, est ce Dieu qui sait ce qui est le mieux pour nous. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée Ati Raja par Emilia Suratman.
Thank you.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson d'Emilia Suratman intitulée Ati Raja. Ensuite, nous allons immédiatement écouter la chanson dont le thème est l'amour pour l'île de Sulawesi. Le titre de cette chanson est Sulawesi Parasanganta par Udin Leader. Cette chanson a un message important pour les habitants de l'île de Sulawesi, y compris de la province de Sulawesi du Sud. Les paroles rappellent que Sulawesi est la responsabilité de son peuple. Ainsi, les gens de Sulawesi doivent également se rappeler afin que leur ville natale soit paisible. Les auditeurs, écoutant la chanson de Udin Leader, dont le titre est Sulawesi Parasanganta. Les auditeurs, la dernière chanson de Sulawesi du Sud s'intitule Pantai Losari, ou en français La plage de Losari, qui a été chantée et créée par Antti Larici. Cette chanson raconte du plaisir de visiter une destination touristique à Makassar, Sulawesi du Sud, à savoir la plage de Losari. Selon cette chanson, la plage de Losari a des vents frais, de nombreux délices culinaires à goûter et des temps où les jeunes se rassemblent dans la nuit. Chers auditeurs, j'espère que par cette chanson, vous serez intéressés à visiter la plage de Losari ou d'autres destinations de Sulawesi du Sud. Terminons cette édition en écoutant la chanson de Antti Larici intitulée Pantai Losari, ou en français la plage de Losari. Bonne écoute!
Pantai Losari, angin mati.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9.5 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.